ービースターウェブラジオ
On n'a pas tous les jours 8 ans.
On n'a vraiment pas tous les jours 8 ans.
Jusqu'à 21h30.
C'est l'anniversaire de Transistor.
Un direct garanti sans spam tous.ens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Transistor, à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs, et bienvenue au DSM SSSSSSH qui nous écoute, j'en suis sûr, très attentivement depuis la cafette. Alors la semaine dernière, Transistor fêtait ses 8 ans, qu'est-ce qu'on est vieux, et c'est pour ça que nous avons choisi de passer un petit moment avec vous, histoire de fêter ça avec dignité. Et par petit moment, je veux dire 3h30, parce que nous sommes en direct jusqu'à 21h30. 3h30 pour vous parler d'actualité, de cinéma, de théâtre, de philosophie, de jeux vidéo, de trucs tristes, de trucs joyeux, enfin plein de choses. Vous allez vous régaler, j'en suis sûr. Et pas seulement par les oreilles, puisque si vous avez faim, mais que vous ne voulez pas nous quitter, vous pouvez aller nous écouter en cafette avec le DSM SSSH, qui nous retransmet sur tout le direct, et à partir de 20h pour la soirée raclette, de quoi se mettre bien. Ah, mais attendez, on me souffle à l'oreillette qu'il suffit que vous rameniez votre fromage et qu'il faut aussi que vous rameniez votre charcuterie. Ah non, c'est bon, le BDE se charge de faire fondre le fromage, tout va bien. Bref, enfin, c'est que le temps tourne, commençons tout de suite en beauté avec En ce moment, le journal de la rédaction de Transistor, histoire que je ne sois pas tout seul à parler.
Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Et en ce moment, commence donc par un journal d'actualité, parce que, à part les interdebs, je crois qu'il s'est passé des trucs aujourd'hui, cette semaine. Bonjour Maï, bonjour François-René.
Quoi de bonjour beau, Robin. Robin.
Quoi de beau, donc ?
Alors, on commence ce journal avec les titres nationaux, d'abord.
Un titre national, mais peut-être pas pour très longtemps. Enfin, en tout cas, c'est ce que souhaiteraient les nationalistes corses qui sont arrivés en tête dimanche au premier tour des élections territoriales. La coalition nationaliste P à Corsica, alliance entre les autonomistes de De Simeoni et les indépendantistes de Talamoni, ont en effet obtenu 45,36% des voix. Malgré une très forte abstention, cette victoire est écrasante et elle écrase notamment les autres partis sur l'île avec une gauche qui surtout a du mal à mobiliser.
Il faudra attendre le second tour avant de tirer les conséquences de ce vote, mais on peut d'ores et déjà s'interroger sur la réponse que Paris apportera aux nationalistes.
En effet, impossible pour Macron de rester sourd devant ce scrutin, mais pas sûr non plus qu'il soit prêt à engager une modification de la Constitution pour préparer un statut plus autonome pour la région. En attendant, les nationalistes surfent sur la vague de leur succès et se sont adressés lundi au gouvernement, lui demandant d'ouvrir des discussions en vue de discuter d'une hypothétique autonomie de la Corse. Patrick Henry est mort dimanche dernier, quelques jours après avoir demandé une suspension de peine pour motif médical. Son procès pour le meurtre d'un enfant en 1976 avait été le symbole de la lutte contre la peine de mort. Ses avocats d'alors, Robert Bacquillon et Robert Badinter, lui avaient évité la peine capitale. 4 ans plus tard, Badinter, devenu garde des Sceaux, obtiendra l'abolition de la peine de mort en France. Sur le campus de Bron maintenant, l'occupation de l'amphi C par des étudiants pour héberger des demandeurs d'asile continue malgré les menaces d'expulsion de la part de la présidence de l'université. Hier, un rassemblement a eu lieu devant la préfecture pour réclamer à ce que des solutions pérennes de logement soient trouvées pour loger les migrants. La mobilisation tient bon et prend de l'ampleur parce que d'autres facs dans d'autres villes ont commencé de semblables initiatives. On reviendra plus en profondeur sur la question à 20h si vous restez avec nous. Et on continue sur une question d'immigration. Le journal Le Monde revenait ce lundi sur un circulaire de Gérard Collomb adressé le 20 novembre au préfet. Le ministre de l'Intérieur réclame un affermissement des mesures prises pour remédier à l'immigration irrégulière.
Après que le préfet de Lyon, Henri-Michel Cornet, ait été remercié à la suite de l'attaque au couteau par un immigré tunisien le 1er octobre à Marseille, qui avait causé le décès de 2 jeunes femmes, la tension dans les rangs préfectoraux s'était laissée sentir.
Gérard Collomb, dans ce circulaire, préconise notamment d'expulser les déboutés de l'asile et de reconduire systématiquement aux frontières les personnes interpellées sans papier.
Des procédés qui rappellent les faits reportés par Caroline Christinaz, arrêtée par la police à la mi-novembre, alors qu'elle faisait un reportage sur les migrants dans les Hautes-Alpes.
La journaliste relatait notamment comment des migrants, parfois mineurs, étaient reconduits à la frontière italienne et abandonnés par les autorités sur des cols en pleine montagne sous des températures négatives. Le gouvernement met donc la pression aux préfets, lesquels font du chiffre dans les arrestations et expulsions pour faire briller leur rapport. Et on attend quant à nous la loi sur l'immigration prévue pour le début du printemps. Donald Trump a annoncé sa volonté de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem.
Oui, il en a informé hier par téléphone le président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que le roi de Jordanie Abdallah. Cette décision aurait une très grande portée symbolique puisqu'elle reviendrait à reconnaître de fait Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël au détriment de la Palestine, et ce 50 ans après la guerre des Six Jours qui avait vu Israël conquérir par la force la vieille ville, lieu où se concentrent les lieux saints. Jérusalem est bien sûr également revendiquée comme capitale de leur futur État par les Palestiniens, son statut devant être défini directement entre les parties. La présidence palestinienne a réagi en avertissant Donald Trump des conséquences dangereuses d'une telle décision sur le processus de paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.
Première visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Alger.
Un séjour qui ne devrait pas excéder la journée, le président français rencontrera le chef d'État algérien Abdelaziz Bouteflika, 80 ans et très affaibli, mais que certaines rumeurs annoncent candidat à sa réélection pour un cinquième mandat l'année prochaine, après déjà 18 ans de règne. Pas sûr que Macron s'aventure à nouveau sur le terrain du crime contre l'humanité. En revanche, il a annoncé qu'il était prêt à ce que soient rendus les crânes d'insurgés algériens tués au XIXe siècle par les colonisateurs français et qui se trouvent actuellement exposés au Musée de l'Homme.
Et enfin, un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord mardi dernier.
Oui, il s'agissait d'un missile balistique intercontinental. Selon Kim Jong-un, les missiles en question seraient susceptibles de toucher n'importe quel site du territoire continental des États-Unis, ce dont toutefois les experts occidentaux doutent fortement. En réaction, Séoul et Washington ont donné le coup d'envoi lundi de leur plus important exercice aérien conjoint à ce jour, manœuvre qualifiée par le régime nord-coréen de provocation totale.
Et passons tout de suite à l'infotrafic de Marie. Bonjour Marie.
Bonsoir Robin.
Un point sur l'infotrafic du week-end.
Bonjour à tous, retour à l'infotrafic depuis le...
Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du trafic satanique d'enfants d'une ampleur mondiale.
En région lyonnaise, où l'on a comptabilisé jusqu'à 100 km de bouchons.
Le plus gros des bouchons.
970 km de bouchons cumulés sur toute la France.
Et ça sera le cas jusqu'à Lyon via l'autoroute A7.
Il faut actuellement 3h20 pour relier Lyon à Orange.
Malgré un trafic vert sur la majeure partie de la France, jeudi marquera le départ en week-end des lettres chiants, avec un indice rouge escanté pour les retours sur l'axe Lyon-Paris. Le lettre chiant, c'est cet individu en lettres et sciences humaines, généralement parisien, banlieusard ou assimilé, qui n'a pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec Lyon, l'ENS ou encore moins ses activités associatives. Ce lettreux qui considère qu'une bière n'a de réalité que si elle a coûté 6 euros le demi rue Mouffetard. Bref, ce lettreux qui vous dit toujours « Ah non, ce week-end je peux pas, je rentre à Paris ». À 18h, le lettre chiant sortira de son cours de langue. À 18h34, il sera dans le TGV direction la gare de Lyon. Circulation ferroviaire difficile, voire bouchée, prévue dans le sens sud-nord de jeudi soir à samedi après-midi inclus. En résumé, si vous comptez monter à Capitale, préférez des voies moins impénétrables. Si vous ne voulez pas vous retrouver à prendre le TGV samedi à 17h04 pour rentrer dimanche matin par celui de 17h53, anticipez et prenez vos billets TGV Max à l'avance. Ayez les bons réflexes et vous circulez aussi facilement que Laurent Wauquiez le long de l'autoroute A71 de la Haute-Loire à la rue Vaugirard où l'attend inexorablement la présence des Républicains.
Pour vous assurer une bonne route, l'infotrafic vous est présenté sur Transistor avec le soutien de nos partenaires.
La régie funéraire du Mans, le deuil en toute tranquillité.
La FEBUMAREC, la Fédération des bus Macron pour la relance de l'économie.
Les assurances S-Marto, votre meilleure garantie contre les sorties de plans d'études.
Merci Marie pour ces bons conseils. Je te signalerai juste que moi, mon TGV Max est à 19h04. Et certes, il arrive à la gare de Massy, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Passons tout de suite à la météo. Bonjour Maë, à nouveau.
Rebonjour Robin. a de l'orage dans l'air en Allemagne alors que le parti d'extrême droite, l'AfD, vient de désigner son nouveau porte-parole. Les journaux parlent d'une tempête dans un verre d'eau quand une partie de l'opinion...
Maë, c'est pas l'heure du flash info là ?
Oui. Cette semaine, attendez-vous à un véritable coup de foudre ?
Non, mais non, Maë, c'est pas l'horoscope non plus. C'est l'heure de la météo.
Ah bon ? Ah mince, décidément, j'ai la tête dans les nuages. Excusez-moi, chers auditeurs, j'ai mélangé mes notes. À force de parler de la pluie et du beau temps, vous comprenez, on s'égare et voilà qu'on finit par s'attirer les foudres de la rédaction. Mais je perds du temps, la météo, vite, 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 à la vitesse de l'éclair. Bon, après tout aussi, je ne suis pas née de la dernière pluie. Je sais bien qu'aujourd'hui, les gens dégainent leur smartphone pour savoir combien d'orteils ils vont perdre dans le froid de canard lyonnais. La météo radiophonique n'a pas le vent en poupe. Et pourtant, contre vents et marées, on s'acharne encore à vous asséner quel temps de chien il va faire. Alors oui, voilà, je peux vous dire qu'il va y avoir une dépression du côté ouest de la diagonale du vide. Oui, je suis géographe. Ne sortez pas votre plaquette de Prozac. Pour autant, j'entends par là qu'il va pleuvoir des cordes en Pays de la Loire, tomber des hallebardes en Normandie à nous faire regretter Azincourt. Enfin, pleuvoir comme vache qui pisse, comme on dirait dans mon patelin. D'ailleurs, par chez moi, on dit aussi qu'il y a du vent à décorner les bœufs et je m'interroge parfois sur cette passion qu'on a pour les bovidés. Enfin, je m'égare. Revenons à nos moutons, parce qu'à Lyon, le temps sera nuageux, vous ne serez en bref assommés que par la qualité du direct de Transistor et non par un soleil de plomb. Alors oui, 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 je vous vois venir d'ici, vous autres scientifiques, mon vocabulaire imagé et à nette tendance zoophile n'a rien de très réaliste, voire frôle parfois l'absurde. Alors oui, j'ai sciemment choisi de ne pas vous décrire les bouleversements internes de la stratosphère, troposphère, thermosphère et exosphère, tout comme j'ai décidé de m'épargner la prononciation de barocline, barotrope, cyclogenèse, cyclolyse, frontolyse, nébulosite et autres termes barbares. Et vous conviendrez tout de même qu'on comprend mieux de quoi on parle si je vous dis que les canards gèlent sur le parc du lac de la Tête d'Or, tandis que des troupeaux de moutons passent en masse dans le ciel et vous épargnent de recevoir, comme dans d'autres régions, du pipi de vache sur la tête. Enfin, comme dirait Philippe Boulevard, la météo est une science qui permet de connaître le temps qu'il aurait dû faire. Bonne semaine à tous.
Merci beaucoup Maë pour cette météo. Bien illustrée, j'ai l'impression, et parlant d'illustration, elles peuvent être sonores aussi, avec Céline, qui nous présente son émission inébranlable, Sidetrax. Bonjour Céline.
Bonjour Robin, bonjour à tous.
Un pour l'argent, deux pour le spectacle, trois pour le game.
Classe, man, top of the pop. C'est du journalisme total.
Je vous parle aujourd'hui d'Ali Danel et ses amis, IES, une mixtape inclusive et heureuse qui va vous donner envie de bourlinguer sur des effluves de grand large. Avec Ali Danel, un musicien d'à peine 23 ans, pétri d'influences de chansons françaises groovy et bariolées. Ali Danel et ses amis IES, donc, ce sont des titres à l'écriture tendrement naïve, un son sucré aux petites mélodies déconcertantes, le tout égrené au fil de compilations estampillées La Souterraine, un collectif prolifique dont on parlait il n'y a pas si longtemps que cela dans l'émission. Le jeune natif de Picardie installé au Havre, qui rêve en regardant les cargos prendre la mer, a fait paraître début septembre un album, qu'il appelle Mixtape, avec une sélection de 10 titres enregistrés et mixés sur le mode du Do It Yourself dans son salon. 10 titres comme autant de cocktails constituent volontiers du côté tropical ou caribéen du globe.
Guadalajara, je n'irai pas là-bas. Je t'ai dit que non, je n'irai pas à Guadalajara. Tu m'as très bien compris, hein? Tu m'as très bien entendu. Je préfère rester là, il y a des vahinés, couleur chocolat, chaleur du café.
La L'album s'écoute comme le croisement des rythmes ondulés de la bossa nova, des percussions afro et d'une voix rendue grave par le truchement des cigares fumés la veille, ainsi que par ses fameuses amies du titre de l'album. Des collaborateurs comme son frère musicien Clément Doche, Winston, le batteur et ami de lycée, et puis Clémence, une voix féminine avec qui il forme le charmant duo Méa. On retrouve d'autres amis encore, plus éloignés dans le temps et l'espace, pour un album ultra référencé. Serge Gainsbourg et son Viva Villa, Francis Bébé et Sansa Tristesse, Philippe Catherine sur l'album Mes Mauvaises Fréquentations, et Teledente 666, dont Ali Danel reprend le titre Soleil Nord-Est. L'album fait également office d'écrin pour une version du poème À peine défiguré de Paul Éluard, qui était paru initialement sur une compilation de La Souterraine, Ne sera pas télévisée, en avril dernier. On est pris par le jeu des percussions, des riffs de basse, des vers enchanteurs et d'un refrain au parfum capiteux. Bonjour tristesse.
Adieu tristesse, bonjour tristesse. Adieu tristesse, bonjour tristesse. Bonjour tristesse, amour des corps aimables. Puissance de l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps. Tête désappointée, tristesse beau visage.
Ali Danel côté inclusif, ce sont aussi des titres plus malicieux et espiègles, à la candeur assumée et dépaysante. Petite fourmi des îles, qui existait d'abord en version rock, s'écoute ainsi comme une petite histoire bossa, rafraîchissante.
Sur mon dos et tu crois que je ne le sais pas. Ah petite fourmi, sache que tu ne crains rien. Tu es la bienvenue sur mon corps de végétarien.
Ali Danel et ses amis IES, c'est l'art libéré, innocent et insouciant. C'est une musique qui laisse percer l'expression d'un désir et d'une jouissance oublieuse pour mieux nous inviter à savourer l'instant présent. C'est ainsi qu'on écoute La Nuit qui vient, le très beau morceau qui clôt l'album, comme un point final à la manière de Georges Moustaki, période Le Temps de Vivre.
Quand je te demande si tu veux de moi, je parle de la nuit qui vient. Je saurai t'attendre et je serai à toi durant toute la nuit qui vient. Et sans question existentielle, sans condition ni rituel,
La mixtape Ali Danel et ses amis IES d'Ali Danel a paru le 1er septembre dernier. Elle est disponible en ligne sur la plateforme de La Souterraine. Et je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour la très belle pochette signée Jean-Michel Fessol. Après des concerts à Paris et à Bruxelles au Festival Francophone, Ali Danel repart en tournée en 2018 en France, avec des dates à Lille et à Évreux notamment. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur la page de l'émission sur transistor.fr et sur les réseaux sociaux où nous attendons également vos commentaires.
Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt s'en vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'avance cet arsenal qui a pour nom Pancho Villa.
Transistor Web.
Merci Céline, voilà de quoi égayer de longues soirées d'hiver. Et nous passons maintenant à l'éphéméride pardon, de François René. Rebonsoir François René.
Rebonsoir Robin.
Samedi à cœur battant, samedi longue est l'attente, dimanche on a tout le temps.
340e jour de l'année, 49e semaine, et aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas. Mais tiens, savez-vous qui est Saint-Nicolas? Qu'a-t-il donc fait pour oser se mesurer au Père Noël dans le cœur des enfants? Nicolas de Myre vécut au 4e siècle de notre ère, en Turquie. Oui, Saint-Nicolas est turc. Enfin, même s'il parlait grec, mais bon, ça vaut quand même le coup d'être noté. Il a probablement combattu les hérésies lors du célèbre concile de Nicée de 325. Ce qui est drôle, c'est qu'il a défendu l'orthodoxie à l'époque, alors qu'aujourd'hui, il est surtout fêté par les protestants, c'est-à-dire des gens qui passèrent longtemps pour des hérétiques aux yeux de l'Église. Mais malgré tous ces hauts faits, Nicolas est-il capable de résister, en tout cas de ce côté du Rhin, à la vague d'un nouveau concurrent depuis aujourd'hui? Je veux parler de Saint Johnny, bien sûr. Ah, Johnny, reviens! Ils sont devenus fous! Fous de toi! Johnny, notre Elvis à nous, à qui Macron promet déjà des funérailles nationales. Allumez le feu, comme aurait dit le principal intéressé, sans mauvais jeu de mots. Macron qui s'inscrit, entre parenthèses, dans la longue lignée des amis de droite du chanteur, comme Chirac pour qui il poussa la chansonnette en 95, et surtout comme Nicolas Sarkozy avec qui il se murgea tranquillement un fameux soir de victoire au Fouquet's. Par son goût des bonnes bouteilles, Johnny, comme dirait Jean-Pierre Raffarin, c'était un peu la France. Johnny, c'était si français, et en même temps, c'est un ambassadeur de l'américanisation culturelle de la France des années 60. Peut-être un agent caché du soft power ? Moins sympa, hein, d'un coup. Moins familier, le Johnny. Reste que, comme dirait Lynn Renault, Johnny n'est pas mort. Il ne mourra jamais, en tout cas dans nos cœurs. Chacun se souviendra-t-il de l'endroit où il était quand lui fut annoncée la funeste et fatidique nouvelle ? Est-ce qu'on évitera la bagarre de sosie à l'enterrement ? Et comme diraient les Fatal Picard, est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux d'Universal ? Dans une chanson d'ailleurs intitulée « Le jour de la mort de Johnny », que je vous conseille d'aller écouter, d'abord parce qu'elle est très rigolote, et ensuite parce que c'est pas tous les jours que c'est la mort de Johnny.
Merci François-René pour cette éphéméride. Quelle tristesse.
Eh oui, oui, oui. Ah, mais c'est pas tous les jours hein, qu'on a... Bah, deux deuils de oui, suite avec Jean Dont...
Un homme de littérature qui a écrit de très belles chansons.
Et oui, oui. Bah, deux hommes de littérature, finalement.
Bon, c'est triste. Bref, nous passons maintenant, parce qu'il faut être dans les temps, à l'horoscope pardon, de Sarah. Que nous révèlent les étoiles et le mar de café en cette fin d'année, Sarah ?
Alors j'essaie de rassembler les forces occultes et me figure dans une yourte mystique et puis je suis à vous. Ami Bélier, au pelage tout bouclé, vous serez efficace dans votre travail. Un mémoire à écrire, un script à rendre, sautez sur l'occasion et cessez de fainéanter. Alors les taureaux, comme d'habitude, vous prendrez l'animal par les cornes. Du coup, songez à vos futurs partiels au lieu de vous remémorer les douceurs de Noël. Et voici les gémeaux, en amour, si vous êtes en manque, n'hésitez pas à l'écrire sur votre liste au Père Noël, on ne sait jamais. Moi j'ai toujours demandé un poney et je me suis retrouvée avec des Playmobil. Bah faites pareil, ça demande moins d'entretien. Cancer, tumeur sur la surface céleste, je vous enjoins poliment de décamper fissa de l'éther, car votre sombre avenir déteint sur mes pensées. Vous allez passer le reste de la journée dans la nuit, c'est très étonnant. Lion, alors côté amour, eh bien je préfère me taire. Les plans à trois petits chats, ce n'est pas vraiment mon domaine. Un phénomène cosmique nuira à votre budget, généralement il baisse à la période des fêtes, alors je table sur un appauvrissement conséquent. Tiens, en parlant de plan, voici la Vierge. Eh bien, vous aurez un enfant en décembre, d'après les hautes instances métapsychiques. Il sera poursuivi par des dictateurs, naîtra dans la crasse et sera sur la paille dès ses premiers soupirs. Franchement, vous auriez pu faire mieux. Les balances, promises à une brillante procrastinomanie, vous vous réjouirez de congés que je sens très, très prochains. PS, évitez de postuler pour un emploi d'agent double, cela nuirait à votre santé mentale, déjà défaillante d'après le ministère de la Santé et des horoscopes. Les scorpions, leur sombre cortège, m'incite à poursuivre en sibylline prophétie. Autour de vous, le monde résonne des causes affamées. Ah mais en fait, ce sont les SDF que vous croiserez bientôt dans le métro.
Sagittaire, d'humeur combative, vous aurez tendance à agresser vos congénères en ce moment. Calmez-vous, ce n'est pas parce qu'ils sont des pustules clopinant sur la terre qu'il faut les écraser, essayez de comprendre leur détresse et au pire flambez-les dans la cheminée, cela tient chaud. Bonsoir les capricornes, vous portez des cornes, alors optez plutôt pour l'ermitage et quittez votre charmant harem. La solitude, l'exil et le désert, vous feront du bien. Ami Verseau, vos cartes tombent toutes sur la tour Dieu, ce qui est un très vilain signe. C'est à la fois formidable au sens horrible et impressionnant, et au sens génial. Du coup, un extraterrestre qui explose votre maison ou une princesse qui sonne à votre porte, ce sera probablement un présage. Et les poissons, c'est votre veine, car c'est plutôt le signe de la divine dinde que l'on sacrifie en cette période de l'année. Pour une fois, vous ne serez pas martyrisé par vos proches. Du coup, arrêtez d'écouter mes bêtises avec vos yeux de merlan frit et donnez un coup de turbo dans votre vie.
Merci beaucoup Sarah, et après le marc de café, on enchaîne avec les pixels, avec un hors-série spécial de notre émission préférée, les aventuriers du pixel perdu. Bonjour Occitane, bonjour Thomas.
Bonjour Robin.
Et bien we're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats.
C'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ?
Peut-être ça va devenir.
Il y a peu, des millions de Françaises et de Français ont eu droit en prime time à cet intense moment de malaise.
Mais là où l'on a le plus grincé des dents, c'est quand même sur Internet. La communauté dite geek par une autre communauté, celle des vieux cons, a été une fois de plus la cible d'un mépris générationnel et d'une violence symbolique, comme on les aime sur les plateaux télé.
Et c'est là qu'on s'est dit, est-ce que le jeu vidéo est condamné à être relégué au rang de divertissement de seconde zone, à déguster une part de pizza à la main ?
Pour le savoir, nous nous sommes rendus au Musée des Beaux-Arts de Lyon pour poser aux visiteurs une seule et même question.
Le jeu vidéo a-t-il sa place dans un musée ?
On a d'abord demandé à Raphaël, Léa et Erwan.
Non.
Non. Vous jouez au jeu vidéo ?
Un peu.
Ouais. Vous jouez à quoi ?
À Mario.
À Mario ? Et vous ne pensez pas que Mario, ça peut être comme des tableaux, ça peut avoir...
Non,
vous ne pensez pas.
Je trouve que les jeux vidéo, c'est pas de l'art.
Après m'être pris un tu fermes ta petite bouche par Erwan 8 ans, je suis rentré dans une phase de doute et d'introspection. Cette jeunesse serait-elle bien plus biberonnée à Salut les Terriens qu'au Club Dorothée ? Ce petit garçon plein de fougue serait-il en réalité aussi réac que Papy Finky ?
Alors, on leur a demandé pourquoi.
Parce que dans un musée, il y a plein de choses plus intéressantes que dans les jeux vidéo.
Quoi par exemple ?
Bah, je sais pas moi.
Bah, savoir
des statues.
Bah, voir quoi, par exemple, voir des sculptures.
Des statues par exemple.
Parce que dans les jeux vidéo, t'es bilibili. Mais les sculptures, pour moi, c'est plus intéressant que les jeux vidéo.
Bilibili boum, pardonne-lui JDG, il ne sait pas ce qu'il dit.
Alors que Thomas est au bord de l'apoplexie, l'enfant se radicalise.
Mais c'est pas intéressant les jeux vidéo pour moi. Enfin, c'est assez intéressant pour s'amuser, mais quand on s'ennuie. Mais par contre, sinon, c'est pas plus intéressant que les sculptures, les œuvres d'art.
Parce que c'est du plaisir.
Et soudain, tout s'éclaire. Ce n'est pas l'enfant qui réac, mais la conception qu'on lui a inculquée de l'art.
Quelque chose de vieux et chiant.
Comme Finkielkraut.
Parce que par exemple, la Nintendo Switch, et ben ça vient de sortir, alors que ça, c'est très longtemps. Et du coup, c'est intéressant de regarder des choses
qu'on
regarde nous-mêmes.
Oui, mais quand même, ça se trouve dans 10 000 ans, peut-être que quand même, il y aura des autres sortes de jeux, et du coup, ces jeux-là, ils pourront quand même exploser, mais ça sera pas de l'art.
Donc pour les Jones, le jeu vidéo n'est pas assez ancien et poussiéreux pour figurer au rang d'art.
C'est ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école et en sortie scolaire au musée.
L'école est triste, hélas, et ils n'ont pas lu tous les livres.
Partons maintenant à la rencontre de gens un peu plus vieux qui en ont lu beaucoup, eux, de livres.
C'est une bonne question, j'ai 85 ans, je sais pas trop, est-ce que vous pensez que le jeu vidéo, il peut être un art ?
Entre ici, Hiroshi Yamauchi, avec ton cortège de pixels.
Mais au moment même où nous ouvrions gaiement les portes du Montparnasse au père de Nintendo, nous avons rencontré Mireille.
Bah, moi je dis pour l'instant non, mais peut-être qu'après ça va prendre cette place-là, historiquement.
Il y a des rejets sur Mireille.
Bah oui, mais je le sais, mais je n'ai pas de scrupules.
De toute façon, il y a tellement de choses qui sont là, maintenant, pourquoi pas. C'est sûr que quand on réfléchit...
Oui, Mireille a le courage de ses opinions.
Mireille, membre gold du Rotary Club, laisse tout de même la porte ouverte.
La fenêtre.
La fenêtre ouverte au vent de l'éventuel et aux bobos relativistes.
Reportage.
Faut réfléchir un peu. Les jeux vidéo ? Oui, mais... Après, nous, c'est pas trop ce qui nous touche, mais par exemple, à l'école, on est au Beaux-Arts. Et à l'école, on a un studio qui s'appelle le studio Énervé.
Où justement, il y a toutes ces questions de jeux vidéo, de réalité virtuelle. Enfin, nous, on a même un cours, en fait, là-dessus.
Ouais.
Même un cours, c'est...
Oui, on commence à mettre le...
Donc oui, oui.
Vous faites quoi dans ce cours, par
contre ? On joue avec le prof.
Lentement mais sûrement, le jeu vidéo prépare son entrée dans le séjour des muses.
Alors certes, on n'apprend pas aux enfants à penser le jeu vidéo comme un art.
Certes, la culture dominante fait la moue quand on lui parle de lui ouvrir ses portes.
Mais à la sortie du musée des Beaux-Arts de Lyon, nous avons fait une rencontre qui nous fait dire que le 10e art n'est pas seulement un fantasme de passionné.
On fait un reportage pour une web radio étudiante.
Oui.
Et en fait, on pose une question à tous les visiteurs du musée.
D'accord.
On aurait voulu savoir si avec les enfants, vous auriez voulu y répondre.
Ah bah oui, si vous voulez, vous les répondez. Ils font une radio sur Internet. Ils posent des questions aux visiteurs. Vous voulez répondre à des questions. Ils vous posent une question, vous répondez.
Nous, notre question, c'est est-ce que selon vous, le jeu vidéo peut être un art, mais aussi pour les parents quoi. Est-ce que, par exemple, tu imaginerais un jeu vidéo? Enfin, je sais pas si tu joues au jeu vidéo.
Si.
Est-ce que pour vous, vous imagineriez le jeu vidéo dans un musée, comme celui-là que vous venez visiter?
Non.
Non. Pourquoi?
Parce qu'un musée, c'est fait pour mettre des œuvres d'art.
Et du coup, le jeu vidéo, ça peut pas être une œuvre d'art?
Non.
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 Bah moi, je pense le contraire. Là.
Ah ouais?
Ouais, moi, je joue à des jeux vidéo, mais... Bah, un peu de tout, mais pas que des jeux, voilà. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo s'orientent aussi vers dans cette...
Vous jouez à quoi sans...
Ça dépend, enfin les jeux vidéo peut-être qui balancent peut-être des messages ou quoi, ça peut être Papers, Please, ça peut être Orwell, ça peut être ce genre de jeu, qui, au-delà des dimensions ludiques, véhiculent un message, donc ça pour moi c'est des œuvres d'art aussi. Donc dans un musée... Oui, il faut voir. Enfin, faut voir comment, en fait. Mais je pense que ça pourrait être super intéressant. Et je pense justement que ça pourrait amener un nouveau public vers les jeux vidéo. Quoi.
Merci, Papa Gamer.
Grâce à vous, la clé du problème nous apparaît comme le Graal à Indiana Jones.
Grâce à vous, nous apercevons non seulement que le jeu vidéo a sa place dans un musée, comme le dirait Indy, mais surtout que la question est avant tout celle de sa mise en œuvre.
Comment exposer un art par essence interactif dans un lieu pensé comme non interactif?
Le jeu vidéo comme 10e art ne demanderait-il pas de repenser la relation entre œuvre et spectateur?
Bref, quand est-ce qu'on joue au musée?
Et à l'APP en direct, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Un grand merci à Félix à la régie qui a réussi à se dépêtrer avec tous nos extraits. Et joyeux anniversaire Transistor.
Jouer au musée, quelle drôle d'idée. Qu'en penses-tu, Rémi ?
Oh bah, tu sais, moi, les jeux vidéo, il paraît que j'ai une agrègue, alors j'essaie de me concentrer sur mon travail.
Oui, c'est vrai qu'on ne fait pas trop ça, les ordinateurs, les pixels en informatique.
Non,
c'est
pas trop. J'en suis en train de réapprendre la dérivation des fonctions linéaires.
On réserve ça au département des arts. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez venir nous écouter en cafette dès maintenant, mais aussi à partir de 20h. Il faut simplement venir avec vos fesses et votre fromage. Il y a de l'électricité et des assiettes déjà là-bas. Mais on va passer au billet d'humeur de Rémi maintenant, je crois. Tu vas nous parler de mémoire ?
De mémoire, oui.
Trop
3 minutes d'humour, de subtilité et de blagues avec du caca.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Robin. Je suis ravi de vous retrouver pour arpenter à nouveau les chemins fleuris de la poésie radiophonique. Mais avant d'en venir au sujet de cette chronique, un petit point en effet, Robin, sur l'athlétisme. Puisqu'on nous annonce un heureux événement que nous n'attendions plus, Jean Dormesson et Johnny Hallyday ont passé la ligne d'arrivée à quelques heures d'intervalle récemment. C'est un véritable raz-de-marée au pays des couches-culottes et tout le système hospitalier français respire enfin. Après des années de souffrance, bref, on ne s'était plus senti aussi léger depuis la mort de Charles Aznavour. Alors je voudrais un déchaînement de joie dans ce studio pour Jeannot et Jean Filou. Bim, bim, voilà, Team Chirac représente, je savais qu'on allait gagner. Bon, de toute façon, Chirac, c'est le meilleur. Enfin, j'adore comme il imite le coq emblème de la nation en continuant à courir partout alors que ça fait 10 ans qu'il a plus sa tête. Bref, la France en larmes salue la mémoire de deux grands hommes, certes plus très frais, mais qu'importe le flacon pourvu que les nécros soient prêtes. Avec d'une part donc un industriel du gâchis de papier Bible qui sut écrire 61 ans durant. Les fadeurs crispées d'un caca bourgeois qui n'avait même pas assez de goût pour mériter le nom de merde, et dont le bouquin à paraître s'intitule avec un sens de l'à-propos édifiant « Et moi, je vis toujours ». Et d'autre part, le grand fantasme de toute cette génération de ploucs qui n'a même pas pleuré à la mort de Pierre Boulez, d'ailleurs Nadine Morano tweetait ce matin « J'ai un problème, je suis sûr que je l'aime. Il brûle mon esprit, et toute ma vie, j'aurai quelque chose de Johnny ». Et elle a bien de la chance, Nadine, parce que ni le fisc ni les asticots qui se heurteront à son cadavre certifié 100% silicone ne pourront se vanter de garder quelque chose du plus célèbre cancéreux de France. Ainsi s'éteignent le Vincent Lambert de la littérature française et le seul bout de plastique à savoir vendre des lunettes. Mais surtout, nos deux plus grands artistes de droite dans un pays où bien trop souvent le saltimbanque penche à gauche, et je revois Dormesson, défenseur infatigable de la bonne morale catholique qui charpente notre nation et d'une droiture presque rigide qui faisait dire aux mauvaises langues qu'il n'avait pas besoin de fourreau pour ranger son épée d'académicien. Mais laissons Dormesson tranquille, je fais confiance à la postérité pour plonger dans un oubli légitime cette longue demi-molle qu'il convient malgré tout d'appeler son œuvre. Et venons-en à un autre sujet brûlant qui défraie la chronique et soulève toutes les inquiétudes et que je me devais de labourer de mon humble soc radiophonique. Je veux bien sûr parler des nègres. Quoi ? Mais non, non, enfin, mais si, vous savez, avec des bras, des jambes, là, et puis un pagne de banane autour de la taille. Je veux dire, vous savez, un peu comme des videurs de boîtes de nuit, vous voyez, mais sans costume avec un os dans le nez. Bon, eh bien, notre président est allé voir ces gens-là dans leur pays, qui s'appelle les colonies, et là, stupeur. Pas de horde grouillante d'êtres noirs marchant nus à même la boue au milieu des hippopotames, leurs enfants par millions gambadant comme autant de kirikous dans la savane secoués par les rythmes sataniques d'une transmillénaire, non ! Manu se trouve nez à nez avec des êtres humains, capables de parler, de penser et même de réparer des climatisations, figurez-vous. Alors l'histoire ne dit pas si Manu les bons tuyaux a conseillé à son homologue burkinabé de se lancer comme auto-entrepreneur chauffagiste, mais elle en dit long sur les représentations douteuses du bon nègre avec qui on peut se permettre de faire des blagues et de la persistance de ces relents coloniaux chez le président du renouveau autoproclamé, pardon, un peu comme si, après avoir vomi notre colonialisme mal digéré, on avait encore des bouts d'épinards enroulés autour d'une molaire. Bon, pour les questions purement pratiques, pas de problème. Hein. Christophe Castaner, la lingette multifonction du président Macron, est toujours prêt à tout pour que Manu soit propre et bien astiqué. Oui, s'il te plaît, Christophe, fais bien le tour des sphincters. Hihi, tourne pas trop la langue trop vite, ça chatouille. Oups, voilà, je t'ai fait une ordonnance dans le visage. Pour le mépris du bronzage, on a mieux, on a GG. Je m'étais pas encore extasié sur l'accès du croulant des terreaux au Graal parisien, mais par les temps qui courent, je préfère me dépêcher et lui rappeler, avant qu'une maladie de riche ne l'emporte lui aussi, qu'ici aussi la clim est en panne et qu'il existe une maladie de pauvre qu'on appelle le froid. Qu'on lui fasse passer le mot, puisqu'il a daigné survivre, que j'ai pu croiser les Africains qui viennent chez nous à force qu'on déverse notre fumier militaro-industriel et qu'on vienne jusque dans leurs bras égorger leurs filles et leurs compagnes, qu'ils sont très très gentils et qu'ils vont même à l'université, figurez-vous. Et je l'invite à faire un tour dans le froid un soir, croiser des vrais gens et attendre d'être assez congelé pour pouvoir jouer maréchal nous voilà en faisant teinter ses amourettes l'une contre l'autre. Et qui sait, peut-être lui et ses copains voudront-ils apprendre à réparer la clim eux-mêmes.
Merci beaucoup Rémi pour ce moment plutôt joyeux. Hein. Allez.
C'est toujours drôle quand les gens meurent.
C'est toujours drôle, effectivement. Bon, c'est la fin dans ce moment, je suis désolé. Mais on reste encore un petit peu et on enchaîne tout de suite avec En spectateur, avec Marie, Colline et Thomas qui vont parler un peu de théâtre.